Bonjour à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la réalisation et la technique, comme d'habitude, mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. En direct de notre studio Gisèle Halimi, je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Nathalie Gauzin, directrice générale de l'IMCA Occitanie, une association située sur la commune de Colomiers. Madame Gauzin, soyez la bienvenue.
Merci, bonsoir.
Alors, Madame Gauzin, vous représentez une belle association qui a été créée. Alors, si mes souvenirs et mes recherches sur Internet, sur votre site, une association d'abord internationale, on la trouve quasiment dans tous les pays, une association du mouvement de jeunesse populaire créée en 1844. Pourrait-on dire, c'est unique peut-être en Occitanie, ce mouvement populaire, l'engagement des jeunes, l'accompagnement, des vacances, mais en Occitanie, vous gérez également des établissements dits médico-sociaux. Alors vous avez un certain nombre de dispositifs, nous allons voir avec vous, nous expliquer l'accompagnement des ESAT, des entreprises adaptées, des ateliers sur le site de Colomiers. On parlera également de l'ensemble de vos clients. Vous travaillez pour Airbus, vous travaillez pour des cliniques, vous travaillez pour, je crois également pour une équipe de rugby. J'imagine que c'est l'équipe de rugby de Colomiers.
Absolument.
Voilà, vous nous expliquerez tout cela. Et on parlera un peu de vous, Nathalie. Vous avez, depuis 2021, la direction à la tête de cette belle institution. Mais avant d'aborder toutes ces questions, 1844... Donc c'est quand même une institution qui marque bien le territoire, est bien ancrée. C'est une institution, pourrait-on dire, qui aujourd'hui laïque, il faut le dire, hein, mais qui a des valeurs dites chrétiennes et issues de l'humanisme social chrétien, comme beaucoup d'associations d'ailleurs du secteur social et médico-social.
Absolument.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment, un peu les dates clés de l'IMCA Occitanie?
Voilà, merci beaucoup. Alors oui, effectivement, en 1855, il y a eu l'IMCA France hein, qui est née. Alors, ça ne s'appelait pas l'IMCA France à l'époque, mais effectivement, ça vient de cette idée d'humanisme, d'accompagnement, de responsabilisation des jeunes pour que ceux-ci puissent être vraiment force de citoyens et force d'accompagnement et de partage. Ensuite, effectivement, concernant, alors à l'époque, hein, l'IMCA de Colomiers, c'était en 1959, avec le docteur Venouille à l'époque, qui effectivement a pu...
A été un des premiers présidents?
Absolument. Le fondateur.
C'est le fondateur.
Le fondateur et le premier président, effectivement, qui a donc, en 1959, pu accueillir des réfugiés politiques espagnols. Donc, en fait, ça s'est créé comme ça. C'était accompagner des personnes, voilà, qui étaient dans le besoin et avec une envie aussi de rebondir et dans cet accompagnement.
On voit bien qu'il y avait de l'humanitaire, du social et ensuite de l'accompagnement, parce que les réfugiés, c'est vrai que la région toulousaine a été une des grandes colonies hispaniques pour, bien évidemment, si mes souvenirs sont bons et les chiffres de la... du consulat, paraît-il qu'il y avait 30 000 ressortissants dans la région Occitanie d'Espagnols qui ont élu et qui sont restés, se sont mariés.
Absolument.
Voilà. Donc c'est quand même une belle communauté hispanique là, qui a marqué l'histoire.
qui a marqué l'histoire absolument. Et justement, en construisant ce projet et en avançant, il y a eu donc effectivement cet accompagnement-là qui s'est dirigé sur le social, mais aussi sur les personnes vulnérables et notamment sur les jeunes en situation de handicap. Et donc, c'est comme ça que dans les années 60, il a été créé ce qu'on appelait à l'époque un CAT, un centre d'aide par le travail.
Centre d'aide par le travail.
Voilà.
Ça dans c'est... les années 60.
Voilà, exactement.
Et d'abord, pourquoi Colomiers ? Parce que souvent, c'est sur Toulouse, ou alors on va vers d'autres villes, Albi, Tarbes, etc. Colomiers, la proximité avec Toulouse, ou simplement le hasard
Le hasard est une opportunité aussi, puisqu'il y avait dans Colomiers un quartier qui s'appelle Le Couder et de la place, quasiment au centre de la ville, avec ce qu'on appelait à l'époque, et ce n'est pas vrai, mais à l'époque ça s'appelait donc Le Château, où effectivement il y avait assez de place pour accueillir des personnes, et en tout cas pour pouvoir créer ces fameux ateliers du CAT, aujourd'hui ESAT. Voilà. Donc, ça s'est construit comme ça, par la volonté de cette personne qui avait ce terrain et qui a pu en faire don à l'association. Voilà.
C'était des personnes polyhandicapées ou handicap physique, handicap psychique, les deux
Plutôt handicap psychique et avec des problèmes cognitifs, on va dire. Voilà. D'accord. Des problématiques, voilà. Et au début, c'était un ESAT qui était un CAT, uniquement réservé aux garçons.
Ah d'accord.
Voilà, donc c'est devenu
1960, il faut dire,
ouais,
c'est
voilà.
Ça. Hein.
Et oui. Donc il faut dire que voilà, ça s'est ensuite diversifié en accueillant tous les genres.
Alors aujourd'hui, vous avez un ESAT. Alors il fonctionne comment si on le décrit, son activité aujourd'hui.
Alors,
En
2023, c'est plusieurs activités. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Atenza, c'était effectivement donc de la blanchisserie. Donc, effectivement.
Donc, vous avez un atelier blanchisserie,
oui.
Et vous avez des clients. Et vous répondez à la commande des clients.
Voilà. Absolument, avec un process bien encadré, avec des collègues aussi, d'autres ESAT. L'entreprise adaptée IMCA Service Occitanie, qui elle est chargée de récupérer le linge ou de le déposer. Et puis c'est travailler donc avec des entreprises, je vais oser le dire, prestigieuses, telles que donc Airbus et entre autres TCO aussi.
Alors. On parle de blanchisserie, alors une question, mais c'est curiosité, pour la blanchisserie pour Airbus, c'est quoi ? Vous faites quoi comme c'est plutôt c'est les chiffons, ce sont les vêtements des travailleurs, des compagnons, parce qu'on dit des compagnons à Airbus, c'est ça.
C'est exactement ça. Ce sont les vêtements des compagnons que nous prenons, que nous marquons, hein, puisqu'il y a un marquage pour que après donc ils nous sont envoyés.
Le compagnon puisse trouver bien entendu sa blouse
pliée, rangée,
voilà.
Et qui va jusque dans son casier, pliée, rangée.
Voilà. Ça demande une logistique importante.
Absolument, et c'est pour ça qu'on est, plusieurs ESAT dans ce processus-là, effectivement.
Alors, combien de personnes dans l'ESAT
Alors, on a un agrément pour 320 personnes, voilà. Donc, c'est un assez gros ESAT, c'est un des trois plus gros ESAT de France, hein, je pense, avec donc une spécificité finalement qu'on a gardée depuis le début, qui est donc des personnes en situation de handicap psychique. Voilà, qui donc sont à accompagner avec justement cette idée de toujours garder au cœur le travail, et donc ça demande beaucoup beaucoup d'aménagement du temps de travail.
Quel âge ont-ils ces personnes en moyenne ?
En moyenne, ça tourne plutôt autour des 35-40 ans.
45-40.
Voilà. Beaucoup, là, depuis quelques années, beaucoup de départs à la retraite. Et puis là, vraiment un maillage avec l'ensemble des collègues
Comment
du territoire.
Comment sont-ils orientés vers votre ESAT
Par une notification.
Une notification de la MDPH.
Absolument.
Donc,
voilà.
La Maison départementale du handicap.
Voilà, une notification qui propose différents établissements, hein, différents ESAT, et donc la personne va venir faire un stage. Et c'est pour ça que je parlais de maillage tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est de faire le maillage avec les institutions pour jeunes adultes ou jeunes adolescents, de manière à justement pouvoir proposer un parcours le plus tôt possible, j'ai envie de dire, pour s'essayer à différentes activités, ou en tout cas à un ESAT, ou alors sur d'autres dispositifs qui existent
à
aujourd'hui.
À la fin, c'est quand même la personne en situation de handicap qui choisit, ou c'est parfois les parents qui incitent, il vaudrait mieux que tu fasses la blanchisserie, ou il vaut mieux que tu fasses la mécanique, ou les espaces verts. Comment ça se passe quand la personne vient faire un stage chez vous?
Alors, chaque cas est particulier, ça on le sait. En tout cas, non, on travaille beaucoup sur cette notion de pouvoir d'agir et d'autodétermination. Donc, c'est vraiment un travail de fond que nous menons avec l'ensemble des équipes pour que, justement, la personne puisse avoir le choix et puisse surtout essayer. Donc, peut-être qu'au départ, hein, elle aura une appétence pour ce qui va être la blanchisserie, par exemple, mais dans son parcours, à un moment donné, elle pourra de toute façon essayer un autre atelier en fonction des activités proposées.
Alors, les autres ateliers proposés sont lesquels ?
Les espaces verts.
Espaces verts.
Voilà.
Alors là, pareil, vous avez des clients qui peuvent être des particuliers ou des entreprises ?
Particuliers, entreprises, et puis aussi on travaille pour Toulouse Métropole. Mais aussi, nous avons quelques chantiers sur Colomiers.
Alors, exemple, je suis citoyen de Colomiers, je souhaite faire tailler ma haie, vous appelle, il y a le commercial qui vient me voir, qui me fait un devis, ça se passe comme ça.
Voilà, c'est à peu près ça, le chef de service qui va venir vous rencontrer, effectivement, ou un moniteur d'atelier, pour estimer, justement, voilà, les travaux à effectuer et vous proposer une prestation.
Et une prestation, et puis on déroule la prestation, et si vous êtes content, vous envoyez la facture et je paye, c'est ça.
C'est exactement ça, mais j'espère que vous seriez content.
les personnes nos citoyens qui invitent un ESAT, est-ce qu'ils font cela parce qu'ils souhaitent accompagner les personnes en situation de handicap, par solidarité? Au lieu de prendre une entreprise tout à fait classique, type commercial ou capitalistique, est-ce que vous avez, quand vous étudiez les demandes de nos concitoyens, est-ce que cette générosité, jouer la carte de la solidarité, ça joue pour avoir plus de chantiers ou moins de chantiers? Est-ce que ça peut jouer?
Je pense que ça peut jouer.
Ça peut jouer un peu.
Oui, mais déjà, il faut connaître.
Pas pour les grandes entreprises, mais.
Oui, qui viennent aussi.
Qui
parce
viennent
que
aussi pour ça. Parfois.
Oui, parfois. En tout cas, ça rentre dans ce qu'on appelle la RSE.
Ah.
Donc, effectivement, ça peut intéresser certaines grandes entreprises.
Responsabilité sociale de l'entreprise.
Voilà.
Des entreprises, oui.
Exactement.
Et donc, ils peuvent dire, c'est bien de faire travailler un ESAT.
Oui.
C'est bien de faire travailler une entreprise adaptée. C'est bien de pouvoir diversifier des fournisseurs. Et y compris des fournisseurs de personnes en situation de handicap.
Absolument, oui.
Ça fonctionne bien. Là.
Oui, ça fonctionne plutôt pas mal, effectivement, avec les entreprises, parce qu'il y a le pouvoir public qui pousse quand même sur cette notion de responsabilité sociétale des entreprises. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que quand même, ce sont des personnes qui font le monde, ou en tout cas dans notre microcosme donc médico-social. Et effectivement, ce sont les personnes qui vont venir chez nous, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Il y a toujours une personne derrière qui a des valeurs, une sensibilité, une envie de partager et aussi qui partage cette idée que à un moment donné, chacun a sa place et chacun peut participer, apporter quelque chose. Donc je pense que ça, c'est important.
Blanchisserie, espace vert, une autre activité dans les ATS.
Marquage industriel. Donc
alors là, marquage industriel, c'est déjà une activité, pourrait-on dire, de haut niveau technique, quoi.
Absolument.
Alors, c'est du marquage, quoi, au laser. Alors, j'ai quelques connaissances. Est-ce que c'est du marquage au laser? C'est du marquage chimique?
Et non.
De quoi s'agit-il?
Ce sont des étiquettes.
Ah, des étiquettes.
Des étiquettes
alors,
pour le câblage.
Confectionner des étiquettes.
Ouais. pour le câblage aéronautique. Donc, c'est vraiment un travail extrêmement minutieux puisque les étiquettes sont à découper au ciseau. Elles sont à imprimer, il ne faut pas se tromper de ligne. Et elles sont aussi, une fois qu'elles sont... avant qu'on les découpe au ciseau, elles passent dans un four puisque c'est un matériel, donc du papier, mais très particulier, qui nécessite un passage au four pour que justement elle puisse résister.
Donc un traitement particulier.
Absolument,
quoi.
Absolument.
Alors là, on touche à des aspects peut-être industriels qu'il ne faut pas dévoiler.
Ah non, on ne va pas dévoiler. En tout cas, c'est un atelier ouais, très intéressant qui est certifié ISO. On a fait la certification la semaine dernière, donc tout s'est bien passé. Et on est vraiment là sur le management visuel aussi dans cet atelier. Ce qui est intéressant, donc, puisque tout le monde participe donc à la qualité, et effectivement, le management visuel permet tous les jours, toutes les semaines, de faire le point avec l'ensemble des personnes de l'atelier sur où on en est des commandes, comment ça s'est passé, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est à l'heure, est-ce qu'on a des manquements. Et c'est vrai que ce management visuel, c'est un plus qu'a pu remarquer le certificateur, justement pour...
Et ça a été apprécié.
Oui, absolument.
Ce sont des... l'ISO, c'est régulièrement tous les 3 ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, certification.
C'est trop souvent, c'est très souvent.
C'est très souvent, non, parce que là...
c'est à peu près tous les 2 ans, avec au milieu, entre-temps.
Avec des contrôles, la qualité tout le long du process.
Bien sûr, voilà. Bien sûr.
Donc, autre activité, après le marquage
Donc, les espaces verts, j'en ai déjà parlé, nous avons aussi une imprimerie.
Et alors, une imprimerie, et alors vous imprimez plutôt des flyers, des livres, vous avez eu des commandes, des affiches peut-être pour les manifestations ?
Non, on est plutôt on est plutôt sur une imprimerie de flyers, sur des petits marchés, des petits marchés. Voilà.
Pas uniquement. Et ensuite, activité restauration, vous m'avez dit ?
Absolument.
En préparant cette émission, il y a un restaurant d'application
et un restaurant
classique.
Absolument. Donc sur le site de l'ESAT, avec une équipe de travailleurs d'ESAT et avec des moniteurs, où effectivement nous préparons les déjeuners du lundi au vendredi, donc à l'ESAT sur le site donc de Colomiers.
Et là, vous avez des clients qui sont souvent les cadres, les travailleurs du coin.
Exactement, les personnes qui travaillent dans le coin, ça peut être aussi, nous recevons aussi parfois, nous pouvons proposer des cocktails à certaines entreprises ou à certaines...
Vous avez des prestations individuelles ou des prestations à la demande des entreprises.
Absolument, absolument.
Vous vous déplacez également, vous faites ce service type traiteur, c'est ça ?
Oui, alors pas encore.
Pas encore.
Pour l'instant, nous sommes donc en train de travailler ce sujet-là sur le cocktail sur site et... voilà, et pourquoi pas, demain, après-demain, d'autres idées vont émerger. Je n'en doute pas, je fais une totale confiance au directeur de l'ESAT.
Vous avez une bonne équipe. Alors, j'ai envie d'aller déjeuner chez vous, je me présente directement, je n'ai pas besoin de passer un petit coup de fil pour réserver.
Absolument.
Il y aura de la place.
Il y aura de la place pour vous, on vous accueillera avec plaisir.
Une restauration très diverse et variée,
voilà,
sans difficulté.
Voilà, donc c'est en mode self. Petit plateau, petit couvert, et puis on avance sur la ligne du self avec l'ensemble entrée, plat, dessert.
Quels sont les prix pratiqués pour un plateau classique ? Si vous avez une idée, donnez-moi une fourchette.
Je pense qu'on est en gros dans les 11 euros, je pense.
Voilà, d'accord.
Voilà.
Vous n'avez pas de difficulté avec les restaurateurs du coin qui considèrent qu'il y a de la concurrence déloyale. Non,
on évite. Et puis voilà, et puis il y a toujours cette idée derrière. Si on vient à l'ESAT, c'est bien, y a une idée derrière, c'est aussi pouvoir bénéficier du travail des travailleurs. C'est une logique aussi inclusive de venir à l'ESAT.
Bon. Nathalie, je vous propose, avant d'aller plus loin, en parlant de l'IPCA Occitanie et les diverses activités, d'aller peut-être passer quelques vacances à la mer.
Avec plaisir.
Michel Jonas.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, au studio Gisèle Halimi, et je suis en compagnie de Nathalie Gauzin, la directrice de l'IMCA Occitanie. Nous avons décliné rapidement les diverses activités liées à l'ESAT, mais on va rentrer un peu plus en profondeur, parce que à côté de l'ESAT, vous avez une entreprise adaptée.
Absolument.
Alors là, c'est nouveau, quoi. La France qui aime bien inventer, et notre pays qui aime bien inventer des dispositifs. Alors, quelle est la différence entre un ESAT et une entreprise adaptée ?
Alors, un ESAT est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà. Voilà, avec une autorité de tarification et de contrôle. Voilà, c'est bien sûr de l'argent public. Alors qu'une entreprise adaptée, elle dépend de la directe.
De la DRET aujourd'hui.
De
la DRET aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire, vous voyez, merci.
Voilà, je vous dis ça parce
bon rattrapage.
Oui, il y a tellement de changements.
DRET. Absolument.
L'administration se réforme et se modernise.
Oh, sûrement, oui. Donc, effectivement, et dans ce cadre-là, ce sont des salariés. Alors qu'à l'ESAT, ce sont des travailleurs handicapés, des TH. D'accord.
Et pourtant, les travailleurs handicapés, ils reçoivent un salaire ou pas à l'ESAT ?
Et ce n'est pas un salaire.
C'est pas tout à fait un
c'est
salaire.
C'est pas tout à fait.
Alors c'est
une rétribution, d'accord, qui n'est pas considérée comme un salaire.
D'accord.
Voilà. Alors que en entreprise adaptée, on est sur des salariés, voilà, qui sont certes ou pas en situation de handicap et qui vont travailler sur différentes activités. Et on peut dire que l'entreprise adaptée fait vraiment partie de l'ESS.
De l'économie sociale et solidaire.
Voilà.
Vous avez également un centre de formation et vous dispensez un titre ou un diplôme. Est-ce que vous pouvez également nous dire de quoi s'agit-il ?
Tout à fait. Alors effectivement, on a un centre de formation, IMCA Formation Occitanie, et nous avons aussi à côté un ESRP, qui est un véritable établissement sanitaire et médico-social, puisque c'est un établissement et service de réadaptation professionnelle. Et dans cette ESRP, nous dispensons la formation de titre de cuisinier, voilà.
Cuisinier pour les brasseries, cuisinier pour
tout type,
collectivités tout type.
Tout type, puisque voilà, on a des formateurs de haut niveau qui eux vont former sur trois modules, l'entrée, le plat et le dessert. Et ainsi pouvoir donc amener des personnes qui sont donc ESRP, pareil. L'orientation, c'est une orientation MDPH, voilà, et qui va donc et ces personnes vont donc pouvoir s'essayer à ce titre, enfin voilà, à obtenir le titre de cuisinier, soit sur les trois modules, soit sur un seul.
En principe, dans une année scolaire, on peut obtenir le titre ou il faut passer par un parcours de 2 années, 3 années de formation en moyenne aujourd'hui, pour les personnes que vous accompagnez.
Il y a eu un nouveau décret en 2020 qui a été mis en application après le Covid, forcément, et qui justement permet la modularité. Donc ce sont des modules, comme je vous le disais, entrée, plat et dessert. Donc ce qui fait que les personnes, elles n'ont pas besoin d'être là pendant 18 mois comme c'était le cas auparavant. Voilà, là on est vraiment sur des modules de plusieurs semaines et qui permettent aussi de s'essayer pendant ces semaines à faire des stages dans le milieu ordinaire. Parce que l'objectif, c'est bien le milieu ordinaire, essayer d'atteindre...
Donc la société inclusive en marche, voilà.
Absolument.
C'est quelque chose que vous martelez d'ailleurs dans votre projet dit associatif. D'ailleurs, vous dites dans votre projet « un combat pour le droit à la différence ».
Et oui.
C'est fondateur, là. Hein.
Absolument.
On peut être différent, mais on peut être dans la société, on a notre place, on peut travailler, on peut vivre de notre salaire. C'est important. Hein,
c'est très aujourd'hui. Important. Et je crois qu'on est tous différents.
On gagne en dignité, comme on dit.
Oui.
Dignité et intégrité à travers la reconnaissance des autres.
Absolument. Et justement, on est tous différents. Et c'est nos propres différences qui font la richesse du monde et la richesse de travailler ensemble, de collaborer. Et donc, oui, c'est un mot fort, mais c'est un mot important.
Alors, toutes ces activités, ça représente pour l'IMCA Occitanie un budget de combien ? Parce qu'il faut parler quand même...
Oui.
Vous êtes un organisme dit gestionnaire. Hein,
absolument.
Et militant, hein, il ne faut pas oublier.
Aussi.
Le droit à la différence.
Absolument.
Alors, un budget de combien ?
Alors, sur la partie ESMS, on est sur 11 millions d'euros.
11 millions d'euros.
Oui, c'est une moyenne.
C'est une moyenne. Et si vous ajoutez les autres activités, vous arrivez à...
Sincèrement, je ne saurais pas vous dire.
Bon. Voilà. Donc, c'est une belle...
sur la partie ESMS.
PME, quoi, comme on dit.
Voilà, absolument.
Dans le médico-social, quoi.
C'est ça.
Combien de salariés en tout pour accompagner l'ensemble des personnes en situation de handicap ?
Alors, sur la partie ESMS, j'y reviens, pardon.
Oui. On est ESMS, donc médico-social.
Médico-social.
Hein. Ce sont des établissements médico-sociaux pour nos auditeurs.
Il y a 190 salariés.
D'accord.
Voilà.
Équivalent temps plein, quand on parle d'équivalent temps plein.
Oui, on est un peu moins en équivalent temps plein. Un petit peu moins, mais guère moins.
Et la caractéristique de vos salariés, c'est éducateur technique. Vous nous donnez une cartographie rapide, ressources humaines.
Oui, bien sûr. Alors, toutes les fonctions appui qu'on peut trouver pour accompagner les fonctions dites support, pour accompagner l'ensemble des projets et des personnes. Et puis ensuite, bien sûr, sur le terrain, des moniteurs d'atelier à l'ESAT, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des accompagnants éducatifs et sociaux, des assistantes sociales, des psychologues, des ergothérapeutes, des formateurs, on l'a vu tout à l'heure. J'en oublie et je m'en excuse. Je pense qu'on a fait des chargés d'insertion professionnelle aussi. Vraiment, toute une palette de professionnels, de missions, de fonctions qui permet d'accompagner le parcours des personnes adultes en situation de handicap. Donc, un parcours travail, un parcours social, un parcours citoyen, puisque nous avons aussi donc de l'hébergement, un foyer
Alors,
d'hébergement.
Vous avez l'hébergement, donc un foyer d'hébergement. Qui sont c'est du logement inclusif, on pourrait dire ça ou pas, c'est-à-dire que la personne en situation de handicap peut vivre en ville, mais si elle décide ou désire travailler vivre un peu en collectivité, il a quand même un studio.
Absolument.
Ou quelque chose qui ressemble à un studio.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre foyer ?
Avec grand plaisir. Donc effectivement, un foyer qui est en pleine réhabilitation actuellement, où effectivement, il est proposé une palette d'accompagnement et plutôt une palette d'appartements, avec des appartements en diffus dans Colomiers, des appartements sur le site, et aussi des petits pavillons et ce qu'on appelle du semi-collectif, du collectif, sur des pavillons. Mais l'ensemble de ces dispositifs bénéficie d'un petit studio. En fait, on est sur du 20 ou 30 mètres carrés avec petite kitchenette. Quand c'est un 30 mètres carrés, une petite chambre, enfin une chambre. Et ce qui permet à chacun de pouvoir essayer différents habitats de manière à voir où je me situe le mieux pour dire bon mais voilà.
Est-ce qu'il y a une demande quand même de vivre plutôt en ville, d'avoir son studio de la part de des personnes que vous avez accompagnées quand on a 35 à 40 ans?
Ouais.
On a plutôt envie de vivre en ville, non?
Et oui et non,
oui
je
et
vous
non.
dirais.
Ça dépend des personnes.
Ça dépend des personnes puisque...
Ils se sentent en insécurité parfois, ils se sentent isolés
Peut-être, oui, l'isolement, oui, a beaucoup marqué, hein, salle de l'isolement, oui, mais c'est aussi partagé. Le fait d'être effectivement sur site, hein, soit dans des pavillons, soit sur du collectif, c'est aussi qu'à un moment donné, on sait qu'il y aura toujours quelqu'un à côté. On sait qu'on peut aller dîner avec les voisins. Puisque voilà, on sait aussi qu'on peut rester tranquille si on a envie d'être tranquille. Je peux me faire ma popote aussi. Donc non, je pense que il y a vraiment besoin de cette palette. Et puis aussi, c'est une manière de se dire, ben à un moment donné, ça va pas trop bien. Je me sens pas trop bien. Je me sens un peu seule, un peu isolée dans mon appartement. Je sais que je peux revenir et que les éducateurs, j'aurai un accompagnement éducatif qui sera là justement pour. Soit pour m'accompagner sur une problématique particulière ou soit pour me sentir un peu moins seul.
Est-ce qu'il y a des activités culturelles qui présentées ou offertes par Inca Occitanie à l'ensemble des personnes que vous accompagnez?
Oui, absolument. Alors donc, il y a un programme qui est travaillé avec les résidents et les résidentes, hein, voilà. Et je pense notamment à des sessions à Audi Sud, par exemple, sur certains spectacles. Ça peut être des concerts. Voilà, il y a peu de temps, il y a eu le concert du tribute à CDC à Colomiers, où effectivement, j'ai pu rencontrer bon nombre de résidents qui étaient venus.
Et qui étaient venus écouter
absolument.
Cette musique formidable.
Oui, voilà, hein. Et puis aussi, c'est le SAVS, hein, le service d'accompagnement à la vie sociale, hein, qui là accompagne les personnes vraiment uniquement sur la partie sociale, hein, sur beaucoup d'accompagnement chez les médecins, par exemple, ou d'accompagnement sur tout ce qui va être administratif, et qui là aussi vont pouvoir proposer des activités partagées.
Les familles interviennent dans votre association. Est-ce que vous avez, dans notre langage, hein, Madame Gauzin, la démocratie sanitaire, qu'elle s'exprime normalement? Vous avez un CVS, un conseil de la vie sociale qui fonctionne, il y a des élus, ils se réunissent régulièrement. Dites-nous un peu la démocratie qui ne s'arrête pas aux portes de l'Inca Occitanie, j'imagine.
Absolument, c'est à l'intérieur aussi, puisqu'effectivement, ça tombe parfaitement. Nous avons fait, il y a 15 jours, 3 semaines, les élections du nouveau CVS à l'ESAT.
Voilà. Conseil de la vie sociale, quelque chose qui est demandé par la loi de 2002.
Hein. Absolument, voilà.
C'est-à-dire que les personnes ont un mot à dire quant aux conditions de vie, etc.
Absolument. Donc oui, nous y tenons. Les nouvelles élections, hein, voilà, c'était donc il y a 3 semaines à l'ESAT, et puis c'était la semaine dernière sur le foyer de vie et le foyer d'hébergement. Donc les CVS, Conseil de la vie sociale, vont s'installer en janvier, avec donc des particularités, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail, pour les ATS, hein, puisqu'il y a une instance mixte et un délégué des personnes, où effectivement nous devons nous calquer sur les décrets d'application de la transformation des ESAT.
C'est vous qui présidez ou ce sont vos directeurs, directrices?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir présider ceci quand j'étais directrice de l'hébergement. Ce sont des moments vraiment qualitatifs, parce qu'on est vraiment en complète... tout le monde se lâche et on peut se dire les choses, donc c'est fabuleux. Et donc, non, c'est délégué au directeur et ou au responsable.
Voilà, directement. Et vous avez un compte rendu qui remonte
Absolument.
À la direction
oui.
générale et à la gouvernance également.
Sachant que dans chaque CVS, il y a un membre de la gouvernance.
Un membre du conseil d'administration.
Conseil d'administration.
Qui est présent,
bureau.
Les relations, j'imagine, avec votre gouvernance se passent bien, une totale confiance, Madame Gauzin?
Absolument, je suis ravie, effectivement.
Combien de personnes dans votre conseil d'administration ?
17.
17 personnes ?
Oui.
Issues de, on dit, de la société civile ?
Absolument.
Vous trouvez de tout ?
Oui, absolument. De, vraiment, beaucoup de parcours différents, mais très, très intéressants, justement, pour accompagner la vision et accompagner la vision du président. Hein, voilà. Le président aussi a souhaité qu'il y ait des vice-présidentes, donc une vice-présidente pour l'entreprise adaptée et une vice-présidente pour la partie établissement sanitaire médico-sociaux.
Vous voyez régulièrement avec la gouvernance,
oui.
C'est une fois tous les deux mois, tous les trois mois, c'est les conseils d'administration, voilà comment ça fonctionne, si on rentre dans le détail de la mécanique de l'institution.
Et c'est important, hein, puisque vous l'avez dit dès le début, nous sommes une association, hein, loi 1901, et donc il y a un CA tous les deux mois. À partir de janvier, ce sera tous les deux mois. Et ensuite, un bureau tous les mois. Je rencontre le président à minima, c'est beaucoup plus que ça, mais à minima, une fois par mois, justement, pour faire un point, un état des lieux, un peu de où on en est des différents projets. Et ensuite, nous avons beaucoup de comités de pilotage, de commissions qui permettent de se voir très, très régulièrement.
En tant que directrice générale, quelle est une des grandes fiertés que vous avez eues à l'IMCA Occitanie, ces dernières années, vous êtes récente, mais quand même,
il y a
des chantiers. Allez, une fierté, Madame Gauzin.
Il y en a beaucoup, parce que je suis extrêmement fière d'être...
Alors, quelques fiertés, alors.
Allez,
quelques fiertés.
Eh bien, c'est bien sûr, voilà, c'est CVS dont vous parlez, hein, où la parole est totalement libre. Donc, pour moi, ça, c'est important. C'est une obligation, mais pour moi, c'est pas une obligation, c'est un droit. Voilà, que chacun puisse s'exprimer. Une fierté, c'est d'avoir pu organiser la soirée des professionnels. Voilà, depuis deux ans, au mois de septembre, nous organisons une soirée avec tous les professionnels, une soirée conviviale. Pour moi, c'est une fierté parce que on est tous là, égaux. et c'est voilà, c'est convivial.
Et là, on partage la stratégie, on partage les objectifs pour l'année.
Pas forcément. Non, parce que c'est vraiment un moment convivial. C'est une soirée conviviale où cette année, on va fêter un événement, mais on est tous ensemble.
Quels sont les projets ? Oui, pardon, je vous ai coupé la parole.
Non, pardon, c'est moi, c'était pour rebondir effectivement sur un moment clé de l'institution. Ça va être effectivement en octobre 2024, un séminaire. Et ça aussi, je le porte haut et fort avec le président, le conseil d'administration et l'ensemble des collègues. C'est un séminaire sur justement le pouvoir d'agir, l'autodétermination. Et ça sera une fierté.
Bon, ça sera une fierté, mais ça fera
partie des fiertés, puisque ça fait partie des fondements, hein, des orientations stratégiques de l'association.
D'autres projets, alors j'ai vu, quand on se promène en ville, et notamment à Colomiers, du côté de Cabirolle, pour les Toulousains et les Colomérins qui connaissent bien, il y a un chantier de réhabilitation de votre site. C'est un chantier important, des transformations de votre établissement. Est-ce qu'il y a d'autres projets immobiliers prévus pour votre organisation, votre association ?
Effectivement, nous sommes en train... Alors là... Le chantier du Cabirolle, effectivement, ce sont le foyer de vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous allons travailler sur le site justement de l'ESAT, sur le site dit de Capitanie à Colomiers, pour rentrer dans un cercle un peu plus vertueux en termes d'énergie et aussi être vraiment sur ce qui n'est pas galvaudé pour moi, travailler vraiment sur le fond de la qualité de vie et des conditions de travail de l'ensemble des protagonistes.
Vous avez comme objectif stratégique, sans dévoiler bien entendu tout, de grandir, d'aller au-delà de la région Occitanie s'il y avait des opportunités qui se présentaient, ou vous dites non, notre territoire, on souhaite bien le mailler, on verra plus tard, la région est grande, commençons par la région. Quelle est votre vision et celle du président ou du conseil d'administration ?
Absolument. Donc pour l'instant, oui, on va continuer de faire bien ce que l'on fait déjà. On va s'occuper de tout le patrimoine que nous avons pour l'enrichir et donc...
Et le réhabiliter, c'est ça ?
Oui, le réhabiliter, exactement.
Vous avez des programmes
oui.
sur les prochaines années pour réhabiliter, moderniser votre patrimoine.
C'est ça, exactement, où vraiment il y a du travail. Et ça, c'est très important, parce que ce sont nos conditions de travail, c'est les conditions d'accueil des personnes. Donc ça, c'est en ligne de mire. Ensuite, nous avons quand même l'entreprise adaptée, IMCA Service Occitanie, qui est sur Cahors.
Voilà. Ah, quand même. Vous êtes aussi,
on est dans le Lot.
Oh, vous êtes dans
on
le
reste
Lot,
dans l'Occitanie.
Hein. Voilà. Oui.
Voilà. Ensuite, voilà, on va nous vraiment asseoir et puis travailler sur tous les sujets, hein, puisque tous les sujets médico-sociaux, nous n'en manquons pas. Et donc voilà, on va commencer par ça.
Est-ce que les financements pour réhabiliter votre patrimoine? C'est le financement de la puissance publique avec l'argent public ou c'est sur les excédents où il y a un plan pluriannuel d'investissement qui a été validé par la puissance publique et l'organisme de tarification. Dites-nous comment vous avez organisé tout ça.
Un peu des trois.
Un peu des trois, mon général, un peu des trois.
J'ai pas osé. Oui, un peu détroit, oui, effectivement. Voilà. Ça dépendra du type d'établissement. Hein. Effectivement, dans un ESAT, nous avons la partie, vous l'avez dit, commerciale, hein, qui permet justement de pouvoir se projeter différemment. Voilà. Donc, on a un peu détroit.
Donc, vous avez du financement mixte, etc. Vous avez une association qui reçoit des dons. Vous avez quelques mécènes qui vous aiment, qui vous font un chèque. Parce que c'est la période où on peut faire. Rappelle, bien entendu, à nos auditeurs d'Esprit Occitanie que pour les associations du secteur, vous pouvez donner la générosité. On a besoin de vous. Et bien entendu, vous pouvez défiscaliser informations pour l'ensemble, y compris pour l'IMCA. Occitanie. Donc, vous recevez quelques...
Alors, nous recevons la taxe d'apprentissage.
Ah, vous recevez la taxe d'apprentissage
voilà,
également.
Voilà, nous avons des entreprises...
Parce que vous êtes au centre de formation.
Oui, absolument. Et donc, ça, c'est chouette parce que les partenaires y participent. Et ensuite, effectivement, ça fait partie des chantiers 2024.
De lancer...
Le mécénat, de le voir mécénat, un peu comment etc. on peut travailler
peut-être
cet aspect.
Peut-être créer un fonds de dotation, quelque chose comme ça.
On y réfléchit.
Des pistes. Il y a
voilà,
des pistes.
Quelques pistes.
Quelques pistes. Mais avant de continuer sur d'autres pistes, je vous propose... Allez, un peu ancien, mais peut-être mais toujours moderne, quelques chanteurs de reggae, ça nous fera le plus grand bien. Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec mon invitée, Madame Nathalie Gauzin, directrice de l'IMCA Occitanie. Nous avons présenté l'ensemble des dispositifs, mais il y en a un dont vous êtes fier également et qui est une singularité parce qu'il n'y a pas beaucoup de services qui s'occupent de ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Il s'agit donc de l'UEROS. C'est une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle qui accompagne des personnes victimes de cérébro-lésions ou de lésions cérébrales acquises. Donc, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui est là, dont la mission est de garantir le projet de vie de la personne en articulant donc le projet thérapeutique et le projet de réadaptation sociale. Alors, il s'agit donc d'évaluer la situation de la personne lorsque c'est possible à la sortie d'hospitalisation ou juste avant, de manière à pouvoir l'accueillir dans son domicile, de l'aider à aménager le domicile. Donc, pour cela, l'équipe pluridisciplinaire, composée donc d'un médecin coordonnateur, d'ergothérapeute, d'assistante sociale, de psychologue, voilà, toute cette équipe est là pour accompagner, bien sûr, la personne dans cet aménagement, matériel, mais aussi dans tout ce qui va être mobilité, trouver aussi des astuces pour arriver à reprendre la vie et aussi accompagner la famille. Parce qu'on s'aperçoit que dans ces cas-là...
La famille, dans ces cas-là, ça doit être très, très difficile.
Absolument, absolument. Donc, chacun a des pas à faire.
Chacun est traumatisé, à des degrés divers, mais c'est souvent un traumatisme pour la famille.
Donc, effectivement, c'est une équipe donc, mobile qui intervient sur l'Occitanie Ouest, on va dire, et qui travaille en coordination avec la MDPH, toujours pareil, nous avons donc une notification de la MDPH et puis qui travaille avec différents SSR et établissements.
Les personnes que vous accompagnez viennent plutôt de la région Occitanie ou ils peuvent venir d'autres régions limitrophes ?
Non.
C'est plutôt
Occitanie. Oui.
Il y a une liste d'attente importante. Il faut répondre.
Et un taux d'activité très important aussi. Voilà. Oui, effectivement.
On va arriver bientôt au terme de notre émission et il faut parler de vous, Madame la directrice générale. Votre CV, quand on le parcourt, vous avez démarré par la sociologie. Vous avez été chargé de recherche dans un laboratoire prestigieux, affilié au CNRS. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez abandonné la sociologie ? Il y avait la thèse au bout. Non, ça y est, j'en ai marre de la thèse. Je ne suis pas une chercheuse. J'ai envie de faire autre chose.
Exactement.
Explique-nous, c'est quoi ? C'était un divorce avec la recherche ?
Non, pas un divorce. Mais chacun doit trouver sa place. Donc, effectivement, des belles années à l'université, ça c'est sûr. Et puis, des beaux terrains aussi. Des terrains de recherche.
Votre terrain de recherche, c'était quoi ? Vous travaillez sur quoi ? Vous vous souvenez
à ce moment-là, je m'en souvenais très bien. À l'époque, c'était France Télécom.
Ah oui.
Voilà.
Alors, j'imagine que c'était toute la transformation
avant
et toutes
Orange.
Les difficultés avant Orange. Ouais.
Voilà.
Et alors là ça a
une
été
prise
difficile
de conscience.
Pour vous ? Ça a été difficile pour vous comme chercheuse ?
C'était pas du tout difficile parce que j'étais sur le terrain avec les intervenants qui plantaient des poteaux, etc. Donc ça, c'était passionnant, recueillir la parole. Et puis, de cette parole, en faire quelque chose, c'est-à-dire proposer des axes d'orientation organisationnelle. Et en fait, quand on est dans ces missions-là, on est là juste pour donner des pistes. Moi, ce qui me manquait, c'était... je voulais voir comment...
Le terrain.
Comment on allait travailler
Mettre
ces pistes.
Œuvre.
Exactement. Et ça, c'était beaucoup de frustration pour moi parce que ça n'allait jamais aboutir. En tout cas, je n'allais pas voir soit ce que des personnes allaient en faire ou pas, ou comment on allait se réaccaparer ce travail.
Bon, mais vous auriez pu aller vers l'entreprise, comme on dit, classique, capitalistique. Comment êtes-vous tombé dans le social et médico-social, l'économie sociale et solidaire dans cette grande famille ?
Alors,
est-ce que c'est en vous regardant dans la glace tous les matins, vous disiez ?
Et non, c'est comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, hein, puisque j'ai des parents militants, associatifs, qui ont monté des associations, enfin une association notamment, pour accompagner les personnes en difficulté à pouvoir prendre des vacances. Et donc, en fait, je baignais
vous
dedans.
Comment faire
autrement ?
Voilà, vous étiez dans un terreau qui était favorable.
Voilà, exactement.
Et donc, vous avez démarré par la responsable qualité dans un ESAT, déjà.
Eh oui, déjà, dans l'Aude.
Dans l'Aude.
Absolument. Et
vous avez démarré quelle association, si vous pouvez.
Alors, à l'époque, c'était l'association Élan, qui est devenue APAJH aujourd'hui.
Voilà, c'est une association reconnue légalement.
Oui, une très très belle association avec des établissements, très beaux établissements. Et donc là, j'ai pu effectivement travailler sur la démarche qualité, mais aussi, quand je suis arrivée, sur l'ensemble de l'association, c'était travailler sur la mise en œuvre des 35 heures.
Ah oui, gros chantier
ça remonte,
également.
Hein, ça remonte.
Gros chantier.
Donc c'était passionnant, j'ai pu travailler vraiment de concert avec la direction générale et de visiter l'ensemble des établissements, donc un très beau moment.
Un passage par les ressources humaines. Alors là, c'est les ressources humaines dans le secteur, c'est compliqué, hein. Dans votre association, il y a pénurie du personnel actuellement. Je reviens sur l'IMCA,
ouais,
ça va ? Vous êtes en plein emploi ou vous avez des difficultés ?
Ça va. Comparé à d'autres collègues, ça va, puisque nous sommes un EANM, un établissement d'accueil non médicalisé, d'accompagnement non médicalisé. Donc, ce qui fait que les problématiques que peuvent avoir nos collègues qui ont des EHPAD, par exemple, hein, où ils vont avoir besoin d'infirmières, d'aide soignante, nous n'avons pas cet aspect.
Nous avons
des infirmières.
Moins de tension sur le personnel.
Oui, absolument.
Alors, les ressources humaines, le dialogue social à l'IMCA Occitanie, il est de qualité ?
Il est de qualité.
La directrice donne de sa personne pour que les relations en CSE, à NAO, soient de grande qualité ?
Absolument, et c'est une de mes missions. Hein. C'est une des missions que m'a confiée forcément le président, hein, lui-même par le biais de son conseil d'administration. Et il faut que ce soit fluide, il faut se parler, il faut apprendre à se parler aussi. Ça fait 2 ans maintenant qu'on dialogue ensemble. Et puis aussi, on l'a dit, un petit peu un terreau militant chez moi. Donc aussi, c'est reconnaître les qualités chez chacun et chacune. Et chacun et chacune a ses qualités. Et nous devons avancer et savoir les reconnaître aussi.
Et donc, dans votre parcours, directrice adjointe chargée de ressources humaines, directrice de foyer, on vous propose directrice générale. Alors, le parcours, vous avez postulé, on est venu vous chercher. On ne va pas se flatter, mais uns et les autres. Mais comment ça s'est produit ?
Mon parcours est fait de rencontres.
De rencontres.
Voilà.
Et de rencontres et opportunités, c'est
absolument.
Ça ?
Absolument. Il y a une porte qui s'ouvre.
L'examinez, vous
voilà.
La prenez.
Voilà. Au moins, en se disant ça, si on la prend, on se dit qu'on n'a pas de regrets.
D'accord. Et donc, on vous a proposé la direction générale et vous avez accepté.
Absolument.
Vous ne regrettez pas ?
Pas du tout. Pas le moindrement.
C'est un beau métier.
C'est un très beau métier. Pour moi, c'est pas difficile, mais les métiers de l'humain sont difficiles. Hein, sont difficiles, mais ils sont tellement beaux et il y a tellement de choses à faire et c'est ce qui se fait au quotidien, cet accompagnement du parcours des personnes en situation de handicap. Que moi, c'est ça qui me pousse, qui me meut et qui m'enthousiasme, c'est-à-dire arriver à mettre en place une organisation qui permet justement un accompagnement optimal et toujours, toujours dans le respect de la personne.
Est-ce que vous avez un plan de carrière ? Peut-être une question très personnelle,
non, mais
que vous
pouvez...
n'osez pas le dire direct. Non, pas de plan de carrière,
non.
Vous dites opportunité.
Opportunité,
C'est surtout pour ne pas fâcher votre président qui va écouter l'émission.
Ah oui, non, mais je pense savoir que je ne le fâcherai pas, parce que nous formons un beau binôme avec aussi un trinôme, donc avec la vice-présidente. Pas de plan de carrière, des opportunités.
Des opportunités, oui.
Oui.
Mais là, le chantier à l'IMCA Occitanie n'est pas terminé.
Le chantier
est-ce qu'on peut le dire, oui.
Et pas encore terminé, effectivement. Donc, nous avons encore du grain à moudre.
Et vous avez
envie partie de cette
vous
belle...
Vous voulez marquer votre association, oui, en disant, on se souvient, les 10 ans de Nathalie Gauzin, ça a été un âge d'or de l'IMCA Occitanie.
Sincèrement,
on a besoin de reconnaissance, peut-être parfois, non, comme directeur général.
Alors,
c'est un métier ingrat parfois.
Mais ça dépend comment on le prend.
Oui.
Ça dépend ce qu'on y met, c'est-à-dire que alors effectivement, en étant empreinte de cet aspect humaniste et associatif, forcément on y met beaucoup de soi. Ça c'est sûr, mais je ne réfléchis pas à quelle trace je vais laisser, mais plutôt comment ce que je vais faire, les rouages que je vais aider, pour lesquels je vais aider à mettre un petit peu d'huile, comment ça va pouvoir faciliter et le dialogue social et puis surtout le parcours des personnes. C'est vraiment en termes organisationnel, en termes qualité de vie et conditions de travail que je réfléchis, en termes de projet aussi, mais pas forcément en termes de traces. Enfin, en tout cas, la mienne.
De quel management vous réclamez-vous ? Collaboratif, participatif, management clinique, management... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Comment on pourrait vous qualifier ?
Oui, plutôt participatif et collaboratif. Oui, oui, c'est un management, c'est le cadre...
Vous êtes une personne accessible, vos salariés peuvent vous rencontrer facilement.
Absolument. Ils osent peut-être pas, pour certains. Mais en tout cas, comme je dis, ma porte est toujours ouverte. Si elle est fermée, c'est que je suis en rendez-vous, faut attendre. Et je suis là, oui, oui, non, non, je pense que je suis... et c'est ce qu'il faut, une personne accessible dans ses fonctions de chef de filet, je vais dire un petit peu, en tout cas de directeur général, qui est là aussi pour donner ce fameux cadre, mais cadre qui se co-construit. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de comités de pilotage, de réunions de travail, que nous travaillons le DURP ensemble avec les groupes ad hoc.
Rappelez pour nos auditeurs, c'est quoi le...
Document unique, d'évaluation
pour les risques psychosociaux.
Psychosociaux, voilà. Donc voilà, tout cela, on le travaille ensemble et c'est important. C'est important. C'est et puis vous l'avez vu dans mon CV, vous l'avez dit un petit peu. Je viens du terrain. Donc, chacun a un rôle à jouer à la place où il est. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de fédérer. C'est d'arriver ensemble à accompagner le parcours dans de bonnes conditions.
Est-ce que votre institution, vos établissements vont être évalués ? Quel est le calendrier où vous en êtes ? La haute autorité de la santé, le référentiel arrive, où vous en êtes ?
On y travaille en 2024 et c'est pour 2026, avril 2026.
Ah, donc c'est prévu dans le calendrier, la qualité tout au long, mais vous êtes déjà habitué avec ISO.
Oui, pour un atelier.
Pour un atelier, mais ça veut dire que la question de la qualité est bien ancrée. Pas de difficulté majeure pour le référentiel de la haute autorité
Non, on a déjà travaillé avec les équipes de direction.
La question de l'éthique, de la bien-traitance, c'est quelque chose qui est bien travaillé dans vos équipes
On a travaillé sur l'évaluation, en tout cas le nouveau référentiel. Voilà. Maintenant, reste à travailler effectivement des petits zooms tels que vous venez de les définir, sur la bien-traitance. Mais l'IMCA avait déjà travaillé sur ce sujet il y a 6 ou 7 ans, donc il y a déjà aussi là un petit ferment. Et puis, l'éthique aussi, absolument.
Merci Madame Gozen, nous arrivons, Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres invités. N'oubliez pas, bien entendu, d'écouter nos émissions, l'ensemble des capsules. Et comme vous savez, cette émission est écoutée chez nos amis québécois. À très bientôt. Madame Gozen, le mot de la fin.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à très bientôt.
Au revoir.